en me rapportant à notre journal officiel, Au Bon Combat, qui a donné pour titre la diaconie. Donc c'est en partant de ce terme que je vais vous présenter quelques données bibliques et quelques remarques à leur propos en première partie de notre séance d'Institut biblique commun. Je vous invite à suivre d'abord la lecture de quelques versets dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. J'aurais pu lire bien des passages du Nouveau Testament, mais j'en ai choisi un qui est assez bref. Nous en citerons d'autres dans quelques instants. Un qui est assez bref et qui est fondamental sur la question des ministères. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 7. Il y a diversité de dons. Le terme qui est employé dans l'original, c'est celui qui a donné le mot charisme en français. On aurait pu dire aussi, il y a diversité de charismes. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Diaconie, le mot n'est pas vraiment un mot français, bien qu'on l'emploie assez souvent dans les églises, depuis quelques lustres en tout cas. Le mot ne se trouve pas dans le Petit Robert, j'ai regardé, ni dans le dictionnaire Hachette 60 000 mots. Il y a le mot diacre, le mot diaconesse, le mot diaconat, mais le mot diaconie ne s'y trouve pas. En fait, c'est simplement la francisation, la transcription avec juste une petite modification d'un mot grec qui était fort courant dans la langue des Grecs à l'époque biblique et qui se trouve aussi dans le Nouveau Testament une trentaine de fois en gros, diaconia. Vous voyez, diaconie, c'est simplement le mot diaconia. On a changé le A final en E final en français parce que nous avons l'habitude de terminaison avec un E plus ou moins muet. Et donc c'est en fait un mot grec qui intervient en gros une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. J'ai fait les comptes plus exactement, mais il y a eu une unité de différence entre ce que dit un article de dictionnaire et puisque j'ai trouvé dans une concordance, alors je vous dis une trentaine de fois. Il y a deux mots qui sont proches parents de celui de diaconie, qu'on trouve aussi à peu près chacun le même nombre de fois, donc une trentaine chaque fois, dans le Nouveau Testament. Il y a le mot diakonos, qui désigne la personne qui accomplit une diaconie, et il y a le verbe diakoneo, ou diakonein si vous employez la formule de l'infinitif, qui signifie exercer l'activité correspondante. Servir comme un diakonos, s'acquitter de sa diaconie, c'est diakonein. Chacun de ces trois termes, qui vraiment se recoupent quant au sens, intervient une trentaine de fois dans le Nouveau Testament, ce qui veut dire que l'ensemble frise la centaine, c'est quand même un terme fréquent, une racine qui est fréquente. Alors il s'agit d'abord pour nous de voir quel est le sens du terme, ou quels sont les sens, parce que vous savez que bien des mots ont plusieurs sens. Parfois des sens qui sont tout à fait séparés, parfois des sens qui s'enchevêtrent, qui sont proches les uns des autres. Il s'agit de nous rendre compte de ce que ces mots, dans l'original de notre Nouveau Testament, signifiaient. Et puis cela va nous introduire à quelques remarques et nous serons au bord des questions plus pratiques qui concernent l'organisation des choses dans notre Église et qui feront l'objet de notre entretien. Aujourd'hui, et peut-être y aura-t-il même des rebondissements ultérieurs. Et bien sûr, je ne compte pas du tout que je sois seul à dialoguer avec vous tous, Monsieur Jean-Charles en particulier, et puis tous avec tous. En quelque sorte, nous dialoguerons après les données d'introduction. Alors le sens du mot diaconia, du terme diakonos, du verbe correspondant, l'étymologie, c'est-à-dire la préhistoire du terme, peut déjà nous donner une petite idée. Il semble que l'idée clé soit celle d'effort ou d'empressement dans l'accomplissement d'une tâche au bénéfice de quelqu'un d'autre. Il y a un autre verbe apparenté qui n'est pas dans le Nouveau Testament, lui, mais qui est employé en grec, avec un autre préfixe, eikonein, qui signifie s'empresser, faire diligence. Ça nous donne une idée du sens de la racine dans la langue grecque. Et il y a d'ailleurs un terme latin qui serait à peu près parallèle. À partir de là, à partir de ce sens qui pourrait être dit préhistorique, le mot désigne le travail de ceux qui essayent de plaire à ceux qui les ont enrôlés, des domestiques, dans les maisons, des valets, des aides de camp, des ordonnances pour les officiers. C'est le travail de quelqu'un qui se dévoue en répondant aux besoins d'autrui. Et c'est sa situation qui l'y conduit. En particulier, le service à table est souvent visé, pas toujours, hein, pas toujours, mais souvent visé dans l'usage de ce terme. La diaconia, c'est le service des gens qui apportent les plats et qui remportent les assiettes vides. C'est le service de ceux qui pourvoient à ce besoin fondamental qui est le besoin d'alimentation pour les êtres humains. Et le sens de service à table est présent encore assez nettement dans le Nouveau Testament. J'ai noté plusieurs références. Pour le mot diaconia, par exemple, vous avez Luc 10, 40. Qui emploie ce terme pour un service à table, c'est Marthe, qui était absorbée par les nombreux soucis du service. Oui, c'est le service de la cuisinière, de la maîtresse de maison, de celle qui prépare le repas. Donc, vous voyez, ça correspond bien. Quant au substantif diakonos, vous avez un usage pour le service à table en Matthieu 22, 13, celui qui sert à table. Pour le verbe, vous avez Matthieu 8, 15. Donc, et je donne simplement là quelques références typiques, mais ce ne sont pas les seules dans le Nouveau Testament. Mais dans l'usage aussi bien du grec courant que du Nouveau Testament lui-même, le mot n'est pas restreint au service à table. Finalement, le terme en vient à désigner toutes les sortes possibles de services. C'est le terme très général qui couvre pratiquement tout ce que l'on fait en accomplissant une tâche pour les autres. Et c'est le mot qui est employé dans le verset que nous avons lu en introduction, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 4. Il y a diversité de services, de diaconie. C'est le mot diaconia qui est employé à cet endroit. Vous avez dans les trois versets 4 à 6, de ce chapitre 12, de la première aux Corinthiens, une perspective à trois faces, pourrait-on dire, sur ce qui se fait dans l'Église, quand cela se fait, au moins selon la pensée de Dieu, comme cela devrait toujours se faire. Il y a trois faces qui correspondent aux trois personnes de la Trinité. Très, très intéressant. Il y a diversité de dons, de charismes. Voilà une première face. Mais le même esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, distribue des capacités, des compétences, certaines qui ont une allure très spectaculaire et surnaturelle, d'autres pas, plus discrètes, mais ce sont les dons du Saint-Esprit, les charismes du Saint-Esprit, et ces charismes sont distribués dans le corps qu'est l'Église, avec un même esprit. Mais l'autre face de cette même réalité, c'est le service. Il y a diversité de services ou ministères et le même Seigneur. Le mot Seigneur correspond à l'idée de service. Quand on remplit un service, on en rend compte à un Seigneur et on accomplit le service selon les directives de ce Seigneur. Et puis, diversité d'opérations, ça c'est un terme un peu plus vague, on doit le reconnaître, et le même Dieu, le Père, qui opère tout et en tous. Pourquoi ce troisième terme ici dans le passage de l'apôtre Paul? Pour bien nous faire comprendre que la distribution des dons et les services qui correspondent s'inscrivent dans le plan de Dieu. Le Père a son grand dessein dont le Fils et l'Esprit sont les agents de réalisation dans l'histoire, tout à sa place, tout à son sens dans le grand plan de Dieu, où Dieu accomplit toute chose selon le conseil de sa volonté. Vous voyez la perspective qui, en quelques mots, nous est définie ici par l'apôtre Paul. Donc le mot diaconie s'emploie de la manière la plus large pour tous les ministères. En fait, le mot ministère traduit le terme diaconia, comme le mot service peut aussi traduire. Paul, de façon répétée, emploie le mot diaconia pour son propre ministère d'apôtre. En particulier dans les chapitres 3 et suivants de la deuxième épître aux Corinthiens, mais dans d'autres passages aussi, très très souvent. L'apostolat, c'est aussi une diaconie. Et Jésus lui-même, pour sa mission, a employé le verbe diakonein. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, avec ce verbe-là, mais pour servir. Le Fils de l'homme, c'était le surnom en quelque sorte qu'il avait adopté pour lui-même. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20, 28 est parallèle. Donc, un sens étymologique, le sens de servir à table, mais un élargissement très très courant, un usage du mot diaconia pour tous les services possibles, envisageables dans l'Église. Et on peut signaler, là, c'est juste une petite note en marge, la différence entre le mot diakonos, traduit serviteur, dans beaucoup de nos versets du Nouveau Testament, et le mot qui est aussi traduit serviteur, mais qui signifie plus précisément esclave. L'apôtre Paul dit souvent, Paul, apôtre, esclave de Jésus-Christ. Alors parfois la traduction c'est serviteur de Jésus-Christ, mais ce n'est pas le même mot. Quelle est la différence entre doulos, c'est le mot esclave qui a été choisi par OM pour l'un de ses bateaux, le doulos, vous savez, mais ça veut dire l'esclave, et dans le sens esclave de Jésus-Christ pour le bateau d'OM. Quelle est la différence entre doulos et diakonos? La différence est la suivante, je crois. Doulos est un terme qui évoque plutôt le statut juridique. Le doulos, l'esclave, peu importe ce qu'il a à faire, il n'est pas libre. Il appartient à quelqu'un d'autre. Il dépend radicalement de lui. La plupart des esclaves avaient à travailler dur dans des conditions très difficiles, mais il a existé dans le monde antique des esclaves qui étaient fondés de pouvoir à la tête d'une banque, qui géraient les affaires de leur maître, qui pouvaient même vivre dans un certain luxe et qui exerçaient une forte influence, ça existait. Mais ils étaient quand même esclaves, parce qu'ils ne pouvaient rien faire de par leur propre volonté. Ils étaient strictement dépendants de la volonté de leur maître. Le terme diakonos ne met pas l'accent sur ce statut de dépendance, d'appartenance, mais sur la fonction que l'on remplit. C'est en rapport avec ce qui est à faire et à la dépense d'énergie pour le faire effectivement que le terme est employé. Vous voyez la nuance? Nous sommes à la fois, par rapport au Seigneur, des diakonoi, des serviteurs avec des fonctions à remplir, et puis des esclaves, le terme est employé à cause de notre faiblesse humaine, parce que c'est la vraie liberté, dit l'apôtre Paul. Il souligne qu'on il dit esclave, mais c'est à cause de la dépendance, à cause de l'appartenance. Mais cette appartenance, c'est la vraie liberté. Romains 6. Donc, un sens très large, avec ces nuances que je viens de signaler, mais aussi un sens plus spécialisé qu'il est intéressant de repérer dans le Nouveau Testament. Peut-être en rapport avec cet usage ancien, premier, pour le service à table. En tout cas, nous voyons qu'il y a des passages où le mot diaconie, diaconia, n'a pas référence à n'importe quel service dans le cadre de la vie de l'Église, mais à un service plus spécial qui semble être l'organisation des secours. Le soin pris en particulier des besoins corporels, des besoins de cette vie temporelle des uns et des autres, et en particulier des pauvres, des malades dans l'Église. Et de manière générale, donc, ce qui a davantage rapport avec l'amour fraternel mis en œuvre qu'avec d'autres types de ministères dans l'Église. On trouve ça assez clairement dans le livre des Actes, au chapitre 6, au verset 1er. Le livre des Actes est très intéressant pour nous instruire sur la manière dont les choses se passaient dans l'Église primitive. On lit, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il y avait plusieurs milliers de chrétiens à Jérusalem, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, ceux qui étaient des Juifs, tous, mais ceux qui étaient de langue grecque, qui étaient les enfants des Juifs qui avaient été dispersés dans tous les pays de l'Empire gréco-romain, qui parlaient grec, qui étaient plus de culture grecque, même s'ils étaient revenus à Jérusalem, on les appelait les hellénistes. Le mot vient du terme qui signifie grec, hein. Hélène égale grec. Oui. Donc les hellénistes, c'est ceux qui parlaient grec, qui étaient plutôt de culture grecque, même s'ils étaient revenus à Jérusalem. Alors il y en avait beaucoup qui s'étaient convertis. Et puis les Hébreux, alors, c'était ceux qui avaient gardé la langue sémitique du pays. Ils parlaient hébreu ou araméen, et les coutumes, donc, de la terre de Judée elle-même. Et il y en avait aussi beaucoup qui s'étaient convertis, donc il y avait quand même deux composantes, les hellénistes, les Hébreux, à l'intérieur de l'Église, à Jérusalem. Et les hellénistes murmuraient, ils n'étaient pas contents, contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service diaconia quotidien. C'est très très clair, il y avait un service de secours, une diaconie, distribution de vivres, de vêtements, etc., en particulier pour les veuves, dont le statut social était tellement précaire à l'époque. Et comme les apôtres étaient des Hébreux, c'est eux qui avaient organisé les choses, il s'est trouvé que dans la distribution, ce n'était pas les apôtres eux-mêmes qui distribuaient, il y avait plusieurs milliers de croyants, mais dans cette distribution, les hellénistes ont eu l'impression que les veuves de leur partie de la communauté ne recevaient pas tout à fait autant que les veuves des familles hébraïques. Et alors, ils ont grogné, protesté. Et là, vous voyez, le mot diaconia, là, est employé, parce qu'il n'y a pas de précision plus étroite. Le service quotidien est employé, là, assez clairement, pour un type de ministère, un type de service. Et ça continue dans le livre des Actes, au chapitre 11 et au chapitre 12, au chapitre 11, verset 29, et au chapitre 12, verset 25. C'est ça, oui, 11-29 et 12-25, il est question d'une collecte qu'on a faite pour les pauvres de l'église de Jérusalem, dans d'autres églises, et en particulier à Antioche. Et Paul et Silas, si je me rappelle bien, ont eu pour mission d'apporter le produit de cette collecte, de ces secours. Non, c'est Barnabas. Barnabas et Saul ont été donc impliqués dans ce service, là encore, un service caritatif de distribution d'aide aux chrétiens qui en avaient le plus besoin, en l'occurrence qui étaient à Jérusalem. Et lorsque l'apôtre parle d'une autre collecte, au chapitre 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens, il emploie aussi le mot diaconia, spécialement pour ce type de fonction, d'activité dans l'Église. On peut aussi noter que le verbe diaconeo donc, est employé en Luc 8, 3 pour les femmes qui assistaient, servaient. C'est le verbe. Jésus avec leurs biens, qui subvenaient à ses besoins. Donc, je pense que nous ne nous trompons pas en disant qu'il y a un usage plus spécialisé du terme à côté des usages larges et courants où le mot diaconie a référence à la distribution des secours aux besoins temporels qui sont comblés. Et en rapport avec cet usage plus spécialisé, mais là encore, c'est peut-être pas juste la même chose, hein, il y a peut-être aussi des nuances. Il y a un usage spécialisé du terme diakonos, du mot donc de cette même famille qui désigne celui qui accomplit une diaconie. Il y a l'usage large. N'importe quel ministre L'apôtre Paul, par exemple, peut être appelé diakonos. Et même le Seigneur Jésus, appelé diakonos. Mais il y a un usage plus spécial où le mot désigne un office dans l'organisation de l'Église. On le voit dans l'introduction de l'épître aux Philippiens, là c'est très clair. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église avec les épiscopes, les surveillants, le mot qui est devenu évêque par la suite, mais il n'a pas tout à fait le même sens, parce que la réalité qui lui correspond n'est pas la même que celle des évêques qui sont venus plus tard. Mais le mot épiscope veut dire surveillant. L'Église, donc, est le destinataire de la lettre avec les épiscopes et les diaconoi. Diaconoi, c'est le pluriel de diaconos. Donc, ils sont distingués des épiscopes et puis du reste de l'Église dans son ensemble. C'est un office particulier. Et puis Paul reprend la chose quand il écrit à Timothée, qui est justement en charge de l'organisation des églises dans la région d'Éphèse, et au chapitre 3 de la première épître à Timothée, l'apôtre Paul fait la liste des qualifications pour deux offices. L'office d'épiscope surveillant. Alors il dit, si quelqu'un veut être surveillant, c'est une œuvre excellente, mais enfin il faut qu'il réponde à tel et tel critère. Et puis ensuite, et les diaconoi aussi. Le mot ensuite a été transcrit et puis est devenu diacre dans la langue ecclésiastique, mais c'est le mot diaconos. Les diaconoi aussi doivent être ceci, 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 cela. Vous connaissez ce passage dans la première épître à Timothée au chapitre 3. Alors, à quoi correspondait cet office des diaconoi? J'hésite un peu à dire diacre, vous voyez, parce que peut-être qu'une idée du diacre, qui a été produite par l'histoire ultérieurement, va se projeter dans notre lecture du Nouveau Testament, et vaut mieux pas à ce stade. Voyez. Mais à quoi correspondait, dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, le rôle du diaconos, au sens étroit du terme, spécialisé? La liste de la première à Timothée ne permet pas de le dire de manière totalement sûre. Parce que ce qui est exigé pour que quelqu'un puisse devenir diaconos, et cela semble inclure aussi bien des femmes que des hommes d'ailleurs, c'est à peu près la même chose que pour l'épiscope, que pour le surveillant. Et d'autres passages montrent que surveillant, épiscope et ancien, c'est équivalent. Ce sont deux mots en gros pour le même office. À peu près les mêmes exigences. Il doit être attaché à la saine doctrine, par exemple, le diaconos. Lui aussi. La différence semble être une responsabilité plus limitée. Parce qu'il est dit de l'épiscope surveillant qui doit être apte à gouverner, qu'il doit bien gouverner les affaires de sa propre maison, sans quoi, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu. Et ce n'est pas dit pour le diaconos. De même, l'épiscopos ancien doit être capable d'enseigner. Ce n'est pas dit pour le diaconos. Donc, il semble que le diaconos est une responsabilité, à coup sûr, et il faut le choisir avec soin, mais que ce soit quand même plus restreint que dans le cas de l'épiscopos, du surveillant ou ancien. L'ancien a la tâche de veiller à la saine doctrine, à la tâche pastorale, qui signifie à la fois qu'il devra veiller à ce que le troupeau soit bien nourri et qu'il soit conduit dans les voies justes et saines. Ce n'est pas la responsabilité du diaconos, mais pour le reste, le diaconos doit faire quand même à peu près la même chose. Et il doit avoir des compétences analogues. C'est, semble-t-il, un assistant assez polyvalent de l'ancien ou épiscopos. Peut-être y a-t-il eu l'influence, c'est ce que certains spécialistes ont pensé, mais ce n'est pas tout à fait sûr, de l'organisation de la synagogue. Car à côté des chefs de synagogue, dans l'organisation de la synagogue chez les Juifs, il y avait aussi une espèce de sacristain, mais il était aussi lecteur de la Torah, qui s'appelle le Chazan. Alors peut-être que le diakonos correspond au moins à certains égards à ce chazan dans l'organisation de la synagogue. En tout cas, donc, ça semble être un assistant avec une responsabilité, mais un peu plus limitée. Et puis, alors, il semble bien qu'il ait quand même eu plus particulièrement à s'occuper des secours, de la forme concrète que prend la communion fraternelle. Ce n'est pas dit dans la première à Timothée chapitre 3, là, reconnaissons-le. Mais en général, on a rattaché cette institution des diaconoi au récit d'Acte 6. Car après ces murmures, ces récriminations à propos de la distribution des secours aux veuves des hellénistes comme des hébreux, vous savez ce qui s'est passé. Les apôtres, au lieu de se raidir en disant « Quoi, taisez-vous, c'est nous les apôtres », au lieu de refuser cette plainte qui quand même était une critique contre leur gestion des choses, les apôtres ont accueilli, c'est remarquable, avec humilité, ce que disaient ces hellénistes. Ils ont reconnu qu'en fait ils en faisaient trop et que du coup ils ne réussissaient pas à tout bien faire. Et ils ont dit, bon, nous, il faut que nous nous concentrions sur la diaconie de la parole de Dieu. Ils employaient le mot diaconie, hein, la diaconie de la parole et la prière. Mais que diakonein, servir aux tables, c'est-à-dire organiser ses secours, hein, c'était pas simplement être derrière la table avec l'assiette, mais vraiment, c'était plusieurs milliers de personnes, c'était d'une grosse responsabilité. Il faut pas que ce soit nous. Il faut que d'autres portent cela. Et ils ont dit à la foule des croyants, choisissez cet homme, et ils ont tous été des hellénistes, remplis du Saint-Esprit, qui seront établis pour cette tâche. Alors les sept ne sont pas appelés diacres, diakonoi, dans ce passage. Donc moi je résiste toujours un petit peu quand on dit les sept diacres, ils ne sont pas appelés comme ça. Et ceux qui sont ensuite mise en scène dans le livre des Actes apparaissent comme aussi des prédicateurs et l'un d'eux est appelé évangéliste. Donc, vous voyez, ne forçons pas la note, ne disons pas ce sont les diacres institués. Mais quand même, il y a l'expression diakonein aux tables. Et puis il y a cette idée qu'il y a quand même deux grands types de services dans l'Église. Il y a le type de service de la parole de Dieu que les apôtres ont vu comme leur service prioritaire, et puis le service aux tables, à prendre au sens large, de tous les secours, de tout ce qui aide les plus faibles, et parfois ceux qui ont l'air d'être forts, mais qui ne sont pas si forts que ça, dans le corps de l'Église. Tout ce qui a trait donc à un autre aspect des choses. Et la tradition chrétienne, après ça, a nettement rattaché l'office du diacre, puisqu'on a dit diacre dans nos pays, à ce service des tables, à cette composante pratique, moins doctrinale, du service qui est nécessaire entre les chrétiens. À mon avis, on a parfois trop restreint. On a été beaucoup plus étroit et rigide que la Bible elle-même. Les diacres ne s'occupent pas seulement de la distribution des secours ou des aspects matériels, les chaises et les tables ou dans l'Église. Le Nouveau Testament ne nous montre pas quelque chose d'aussi strictement cantonné dans un seul domaine. Mais quand même, je pense qu'il y a une certaine justification à dire, c'est davantage leur domaine de responsabilité, avec une assez grande diversité interne. Alors on peut signaler que le vocabulaire a fluctué, que ça a été un peu variable au cours des âges, que dans les églises issues de la Réforme au XVIe siècle, en général, on a parlé de diacres pour ceux qui étaient chargés des secours aux nécessiteux. C'était la manière de parler de Calvin. Ça s'est plus ou moins réalisé. Parfois, les églises de type réformé ont eu des diacres. Chaque église locale, disons, paroisse, comme on disait souvent, a été dirigée par un conseil d'anciens, dit encore conseil presbytéral, mais le mot presbytéral veut dire d'ancien. Presbytre, c'est le mot pour ancien, en grec, transcrit du grec. Donc, chaque paroisse est dirigée par un conseil presbytéral d'ancien, le pasteur étant considéré comme l'ancien plus spécialement chargé de l'enseignement. Tous doivent être aptes à l'enseignement, jusqu'à un certain point, mais il y en a quand même qui peuvent être spécialisés. Oui. Dans notre tradition baptiste, ça n'a pas été si net que ça. Il a été assez classique, et c'était la façon de parler ancienne dans notre église du tabernacle, il a été assez classique chez les baptistes d'appeler le pasteur pasteur, mais en considérant que c'est lui qui correspondait à l'ancien ou épiscope du Nouveau Testament, et puis d'appeler le conseil autour de lui conseil des diacres. Dans les années 30, c'est comme ça qu'on parlait dans l'église du tabernacle. On disait les diacres pour les membres du conseil. Et puis je me rappelle encore, j'étais jeune, hein, mais et que dans les années 50, ça a été débattu dans notre église. Et que finalement, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité du Nouveau Testament. Parce que le conseil avait quand même un rôle de gouvernement dans l'église. Et on en a débattu. C'était à l'époque où je crois que mon père était le pasteur en titre donc dans l'église du tabernacle. Et il a été décidé de n'appeler les membres du conseil ni anciens ni diacres, parce que ça ne correspondait pas exactement au Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on a dit les membres du conseil. Oui. Un usage qui se poursuit jusqu'à nos jours, jusqu'à ce temps présent, bien que depuis quelques années, nous tendions à utiliser le mot ancien plus fréquemment pour les membres du conseil. Il y a eu une certaine évolution dans notre façon quotidienne de parler, je crois, au tabernacle. Alors, une question qui va, je crois, faire l'objet de débats, moi j'ai juste posé les bases bibliques, hein, mais une question qui s'est posée à plusieurs, c'est celle de savoir s'il ne faudrait pas reconnaître sous le nom de diaconoi des hommes et des femmes qui ne font pas partie du conseil à l'heure actuelle, mais qui en réalité exercent bien une responsabilité dans un secteur déterminé qui correspond au bien-être de l'Église. Je fais quelques remarques pour finir cette conclusion. Pour la réflexion, ça peut nous aider à assimiler les données de la Bible elle-même. Il me semble intéressant d'une part que le mot ne soit pas un mot strictement spécialisé dans le Nouveau Testament, qu'il puisse s'employer à tous les ministères, ce mot de diaconie. Et le mot de diakonos, si vous voulez diacre, aussi pour un apôtre même. Oui. Qu'est-ce que ça nous apprend? Je crois que ça nous apprend qu'il n'y a pas dans le corps de Christ, dans l'Église, de division, de séparation radicale. En fait, nous avons tous un ministère, nous participons tous à un ministère collectif où nous nous servons les uns les autres, où nous remplissons des fonctions complémentaires et comme dans un corps. Chacun est au service des autres et chacun bénéficie du service des autres. Ça, je crois que c'est une perspective importante et intéressante. Et puis aussi, bien sûr, c'est élémentaire, mais on a toujours besoin du rappel que l'exercice des fonctions dans l'Église est un service, y compris le service d'autorité. Ça n'annule pas l'idée d'autorité, mais celui qui exerce l'autorité, il ne le fait pas pour lui-même, mais pour le bien des autres. Et s'il ne fait pas comme ça, il ne fait pas comme le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus s'est fait le diakonos et même le doulos. Le Seigneur Jésus, à qui toute autorité est remise et qui exerce l'autorité, il est le Seigneur, ne le fait pas pour se complaire en lui-même, pour accroître son pouvoir ou son plaisir, mais pour le bien de ceux qui sont soumis à son autorité. Et ça, c'est le modèle qui régit toute activité dans l'Église. Et puis que le mot diaconia puisse avoir un emploi aussi plus spécialisé, je pense que c'est également intéressant et que le mot diakonos désigne un office particulier. Je crois que ça souligne le caractère concret, effectif de l'amour chrétien dans les perspectives bibliques. Amour chrétien, ce n'est pas un rêve romantique. Ce n'est pas cette cette fièvre des sentiments, ou cette euphorie, semble fondue ensemble, ça existe, ce n'est pas quelque chose de négatif quand on en fait l'expérience, mais ce n'est pas ça que le Nouveau Testament nous apprend à considérer comme vraiment la volonté de Dieu pour ses enfants. Tout l'accent porte sur le service concret. Et aimer son prochain, ce n'est pas forcément trouver tellement agréable les traits de son visage ou peut-être les angles de son caractère, mais c'est le servir, travailler réellement pour son bien. Puis aussi, cet emploi spécialisé nous rappelle la dignité de l'existence corporelle qui est la nôtre. Nous sommes dans un corps. Si nous vivons dans la foi, nous vivons encore dans la chair. Et cela, je crois que nous avons besoin encore de nous le rappeler contre toute fuite hors du corps dans la piété, comme si le corps n'importait pas à Dieu. C'est une perspective païenne que celle qui méprise le corps. Et avoir un service, diaconie, qui s'intéresse particulièrement aux besoins du corps, je crois que ça nous rappelle que le Seigneur est pour le corps, comme dit la première aux Corinthiens au chapitre 6. Et entre autres, ce corps, dans sa forme présente, cet homme extérieur qui se détruit au fil des jours, le dit le passage qu'a lu M. Jean-Charles, nous ne sommes pas encore dans le royaume pleinement établi, visiblement établi. Nous avons les arts de l'esprit, un acompte, mais faut pas rêver là encore. Nous sommes dans un corps qui souffre, nous sommes faibles, avec des besoins qui doivent être pourvus, et Dieu a institué donc des services dans l'Église pour que ces besoins effectivement soient couverts dans le réseau du ministère collectif du corps. Voilà quelques pensées qui peuvent, je crois, nous être utiles. Alors j'espère n'avoir pas parlé trop longtemps, et maintenant je donne la présidence à M. Jean-Charles.
Je reprends la présidence pour vous donner la parole. Alors, les questions, pour demander telle précision sur tel point, ou bien des choses qui n'ont pas été dites et que vous attendiez peut-être, alors vous avez l'occasion de formuler tout cela.
Monsieur Sidamon, qui est le diaconos de...
Monsieur Berger demande la parole. Ah oui. Des cassettes. Monsieur Berger demande la parole.
Dans certaines églises évangéliques, on fait une différence entre ancien et diacre. L'ancien, c'est celui qui fait partie du conseil, on va dire, et les diacres, ce sont ceux qui servent, ceux qui sont là pour entretenir les bâtiments, etc. C'est on peut dire une grade en dessous.
Alors, c'est une remarque ou une question? Parce que M. Berger nous dit que dans certaines églises, donc, il y a d'un côté les anciens qui font partie du conseil et ensuite les diacres qui sont, si je dirais, sur le terrain. Alors, au point de vue biblique, comment réduire cette solution de continuité?
Bon, j'ai essayé déjà, par anticipation, de répondre un peu à cette question dans ce que j'ai dit, mais j'explique encore comment je crois devoir voir les choses. Je crois qu'il y a une distinction dans le Nouveau Testament entre la responsabilité des anciens et celle des diaconoi ou diacres. Et c'est vrai que dans d'autres églises évangéliques, on la marque très nettement, et que chez nous, elle n'est pas marquée très nettement, et que peut-être nous avons quelque chose à revoir à ce propos pour mieux correspondre au Nouveau Testament. Dans une église du Nouveau Testament, on devait savoir qui était ancien et qui était diacre. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous. Donc, c'est vrai que nous pouvons dire que chez d'autres, la distinction est mieux marquée et que nous avons peut-être quelque chose à apprendre de leur part. Mais, je pense quand même que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas non plus très tranché. Dans ce sens que le diaconos, même au sens spécialisé du terme, est un assistant assez polyvalent de l'ancien, qu'il travaille auprès de lui et qu'il accomplit des tâches assez voisines, sans la même responsabilité, sans le même poids de responsabilité, mais quand même. Et la restriction aux affaires du bâtiment pour les diacres, comme M. Berger l'a formulé, et c'est vrai que c'est comme ça dans certaines églises, vraiment, je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. S'il y a un accent particulier, c'est bien plutôt sur la distribution des secours aux pauvres et aux malades. Ce n'est pas les bâtiments. D'ailleurs, l'Église n'en avait pas beaucoup au premier siècle. Et puis, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui soit aussi étroitement circonscrit. Non, non. Et là, je pense que, peut-être parce que nous sommes restés dans le flou, nous sommes un peu mieux dans l'axe du Nouveau Testament, dans notre Église. Encore qu'il y ait sans doute à faire davantage, même bien qu'il y ait des choses qui soient faites, dans le sens des secours mutuels. Voilà juste donc un avis, mais Monsieur Jean-Charles pourrait...
Moi, je voudrais tout simplement et préciser que même s'il y a cet aspect d'assistant ou de responsabilité moindre, et je ne pense pas et que nous devions ressentir cela comme étant un échelon en dessous, puisque dans le corps, même le membre le plus petit a une grande importance et peut-être même est comblé d'honneur. Et le Seigneur a dit, le plus grand est celui qui sert. Donc, et humainement, on peut ressentir en effet une certaine frustration, mais dans le cadre de la communion et dans la sagesse du Seigneur, je crois qu'il n'en est pas ainsi. Oui, M. Morel a la parole, ensuite ce sera M. Dougou, Christian.
Sinon, ça réfère au texte de Timothée 3 que vous avez dit tout à l'heure. Faut-il tirer une leçon du fait que l'ancien est cité au singulier et au masculin, alors que les diaconos sont au pluriel et au masculin et au féminin?
Alors, précision, dans 1 Timothée 3, pourquoi ancien au singulier et masculin, et ensuite diakonos, et plutôt diakonoi au pluriel. Alors, quelle est la nuance?
Je pense que c'est quand même significatif. En tout cas, en ce qui concerne l'indication sur les femmes dans le deuxième paragraphe, celui qui concerne les diakonoi, que cette mention soit faite dans ce deuxième paragraphe et qu'on n'ait rien de semblable dans le premier, me semble refléter ce que le Nouveau Testament nous montre en général, à savoir que le ministère de gouvernement dans l'Église, le ministère d'anciens, n'a pas été attribué à cette époque à des femmes. Je pense que c'est indéniable, il n'y a pas d'exemple de femmes qui soient dites anciens ou épiscopes dans le Nouveau Testament. Alors comment gérer cette situation alors qu'il y a des femmes prophétesses ou une femme qui exerce une influence manifestement très forte, théologienne pourrait-on dire, comme Priscille? Comment, tirer pour notre temps des conséquences de cette situation? Personnellement, mais c'est discutable, hein. On pourra peut-être y revenir une fois, on en a parlé dans le passé de l'Église, mais personnellement, je considère qu'il y a un régime ordinaire et un régime extraordinaire. Que cet usage du masculin et du féminin définit un régime ordinaire dans le Nouveau Testament, et pas seulement pour le temps du Nouveau Testament, c'est pas juste une situation culturelle. Mais que Dieu reste parfaitement libre d'user de ministères extraordinaires. C'est une catégorie juridique, hein, dans les universités, classiquement, il y avait les professeurs ordinaires et puis les professeurs extraordinaires. Que Dieu est parfaitement libre à cet égard et qu'il nous le montre en donnant les dons correspondants. Puisqu'un don et un service, c'est deux facettes d'une même réalité. Personnellement, j'applique en quelque sorte ce que je crois la portée de cette différence dans le texte. En ce qui concerne la différence entre le singulier et le pluriel, qui aussi était soulevé, j'hésite un peu. L'argument est employé par un grand théologien baptiste, qui s'appelait Strong, à la fin du siècle, du 19e siècle, donc il y a à peu près un siècle, justement parce que les baptistes avaient l'habitude de dire un pasteur, un ancien, et puis le conseil, les diacres autour de lui, Strong, qui était baptiste, se défend contre les critiques des réformés en disant, mais vous voyez, là, l'ancien est au singulier, enfin, l'épiscope est au singulier. Oui. C'est son argument. Moi, ça me semble un petit peu forcé dans la mesure où nous avons l'équivalence épiscope ancien qui est ferme, qui est bien établie par d'autres passages, et où ailleurs les anciens sont toujours au pluriel. Alors je me demande, mais ça devient plus subtil, hein, mais je crois que vous allez pouvoir très bien suivre, je me demande si nous n'avons pas dans ce singulier d'un Timothée 3, premier verset, l'indication que le vocabulaire commençait juste à changer. Vers la fin de la vie de l'apôtre Paul, il y avait le collège des anciens, ils étaient aussi les surveillants, mais on était en train de prendre l'habitude d'en appeler un parmi les anciens, plus spécialement épiscope, surveillant. Surtout qu'à Qumran, dans la communauté de Qumran, il y avait un conseil d'anciens, mais il y en avait un qui était appelé le surveillant, Mebaker, en hébreu. Alors, c'est bien possible, surtout qu'à Qumran, c'était celui qui gérait les finances et les secours. Alors évidemment, une fonction de surveillance peut-être particulièrement développée, et peut-être un certain pouvoir qui a fait qu'après quelques générations, dans ce qui est devenu l'Église catholique, si vous voulez, mais enfin, elle n'est pas devenue tout de suite catholique avec les traits de la catholicité que nous connaissons, mais l'épiscope s'est détaché du groupe des anciens presbytres et a été considéré comme d'un grade supérieur. Il semble bien qu'à Rome, vers le milieu du IIe siècle, vers 150, vous aviez la situation suivante, schématiquement, je résume peut-être un peu trop, vous aviez l'épiscope à plein temps avec sept diaconoi, sept diacres autour de lui à plein temps aussi, qui étaient en quelque sorte ses assistants et qui distribuaient les secours parce que c'était lui qui était responsable de la caisse et de l'organisation. Et puis vous aviez alors des presbytres anciens qui n'étaient pas des gens à plein temps, de telle sorte qu'on comprend assez bien comment l'épiscope avec la caisse, avec l'équipe de travailleurs, les diaconoi autour de lui, a eu un pouvoir qui s'est accru progressivement, de telle sorte qu'on a eu alors la hiérarchie, ensuite l'évêque, les presbytres, le mot est devenu prêtre en français, mais ça veut dire ancien, et puis les diacres. Bon, ça, c'est peut-être pas parfaitement sûr historiquement, mais nous avons des indices dans ce sens, voyez.
Est-ce que M. Morel est satisfait de ces précisions? Alors, M. Dougou, Christian.
Dans le début de l'Église, nous avons vu des personnes comme Mme Écrit et Mlle Patrice à une période déterminée. J'aimerais savoir si c'est plutôt Henri, Jean, peut-être M. Berger, dans le sens pratique des choses que nous avons vécues, déjà à l'époque, nous avons vécu toute une expérience, là. Est-ce que c'est entièrement positif? Est-ce qu'il y a eu des choses, il y aurait eu peut-être des choses à revoir? Quel était leur travail concret par rapport au fait
qu'il y a un dans la. Donc, en gros, comment apprécier donc, le travail de ces deux sœurs et... Appréciation à la fois théologique et pratique. Quoi.
Voilà. Bon, j'essaye d'être très très bref pour que justement les autres anciens, au sens alors de l'ancienneté dans l'Église, puissent répondre aussi. Je pense qu'elles ont eu un très beau ministère. Que ce ministère correspondait assez bien à celui du diacre, du diaconos dans le Nouveau Testament. Et entre parenthèses, il n'y a pas de forme féminin. Il n'y a pas le mot diaconès dans le Nouveau Testament. Il a été employé ensuite dans les textes de l'Ecclésiastique, mais pas dans le Nouveau Testament. Et lorsque c'est une femme, elle est appelée aussi diaconos, pas diaconissa. C'est le cas de Phébé, au début de Romains 16, qui est appelée à la fois... Donc, diaconos de l'église de Sancré, et aussi prostatis, qui se traduirait, si c'était un homme, en tout cas, présidente. Oui, c'est un terme, là, donneur d'autorité. Il y a les deux termes pour Phébé au début de Romains 16. Oui. Donc, vous avez, je pense, dans le ministère de Mademoiselle Écrine ou de Mademoiselle Abrique, un rôle de diakonos. Mais elles n'ont pas été appelées diakonos avec notre façon de parler. Elles n'ont pas été dans le conseil. C'est peut-être pas tout à fait... Enfin, je ne sais pas. Bon, voilà donc ce que je dirais, que d'autres parlent.
Oui, Madame Baudard. Alors, les diacres veufs avaient-ils le droit de se remarier?
Je pourrais répondre à cette question, mais je me demande s'il faut poursuivre encore sur la question précédente, parce que j'avais donné une réponse, mais en pensant que M. Berger ou M. Morel, puisqu'ils avaient été aussi interpellés par Christian. Oui. Je pense que... on n'oublie pas la question que vous avez posée, Mme Audard, et j'aurais un mot à dire, mais je pense que... si M. Morel ou M. Berger veulent commenter sur le ministère de Mademoiselle Abrique ou Mademoiselle Écrine.
C'était de parfaite
réponse. Oui, ça, pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Pratiquement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas avancé, c'est simple.
Alors, est-ce qu'un ancien veut préciser quelques points pratiques du ministère?
Pas d'éducation, mais de l'enseignement. Pas
Mademoiselle Écrine, Mademoiselle Écrine enseignait.
Pas des cultes, hein. Je ne me souviens pas de cultes.
Pas de cultes.
À des réunions particulières, j'ai vu Mademoiselle Écrine apporter l'enseignement. En plus, Mademoiselle Écrine, par exemple, était directrice de la maison
qui était
de la maison de
retraite
des Héritages.
Merci. Il y en avait d'autres? Il y avait d'autres directrices à Béthany, c'est cela.
Oui.
Donc, visite à domicile, secours à l'hôpital. Oui, d'une effleurie. Et auprès des enfants, donc je répète pour que cela passe. Donc vraiment, un service très varié. Oui. Direction de colonie de vacances, oui.
Est-ce que j'essaie de répondre à la question soulevée par Mme Baudard? Donc, voici les textes. Donc, dans la première épître à Timothée, dans la liste des qualifications requises pour l'épiscope ou surveillant, il est dit, donc au verset 2 de Timothée 3, il faut donc que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, etc. Ce n'est pas dit pour le diacre ou le diaconos dans le paragraphe qui suit. Donc au verset 11, il est dit que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc là, il y a en plus du côté diaconoi un verset sur ce que doivent être les femmes, mais il n'y a pas la mention mari d'une seule femme. Alors je pense que ça confirme que pour le rôle de diaconos, au titre du régime ordinaire, ce sont des femmes aussi bien que des hommes. Donc on n'allait pas dire le diacre doit être mari d'une seule femme, puisque ça n'aurait pas pu s'appliquer là à la femme elle-même. Ou alors il aurait fallu dire et la femme, femme. Ah oui, d'accord, les diacres, oui d'accord. Non, c'est vrai, excusez-moi. Et puis alors, vous avez la mention également au chapitre 5 et au verset 9. Cette fois, il s'agit des veuves qui peuvent être inscrites sur une liste dans l'Église primitive, qu'elle n'est pas moins de 60 ans, et il est dit qu'elle ait été la femme d'un seul mari, dans la traduction que je lis ici. Alors, que signifient ces expressions? C'est un point qui est débattu. Certains y ont vu l'exclusion de la polygamie, polygamie au sens simple et strict du terme, c'est-à-dire plusieurs conjoints en même temps. D'autres y ont vu l'exclusion de divorcés remariés, ce que parfois on appelle une polygamie séquentielle, en succession. Mais ça, c'est une interprétation rare. Hein. Et d'autres y ont vu même l'interdiction de secondes noces après veuvage. C'est l'interprétation, en particulier, dans l'Église orientale byzantine, d'où l'expression « choyer comme la femme d'un pope ». Parce que si un pope perd sa femme, il ne peut pas se remarier, en fonction de l'interprétation donnée à ces versets ici. Mais il y a d'autres interprétations encore, et celle que je crois personnellement la plus juste, je pourrais même donner une référence à un article du père Lyonnais sur ce point, qui est d'après donc l'étude de la formulation même des textes de l'Antiquité, et c'est beaucoup plus simple. Il ne s'agit pas du nombre de mariages, du remariage après veuvage ou divorce, il s'agit de l'attitude dans le mariage. On traduit mari d'une seule femme ou femme d'un seul mari dans ces divers versets, mais on pourrait aussi traduire l'homme d'une seule femme ou la femme d'un seul homme. C'est le même mot en grec, mari ou homme. Et comme en français d'ailleurs, le mot femme, vous voyez, a les deux sens, conjointe dans un mariage ou bien personne du sexe féminin. De même pour le mot homme dans le grec, ou bien ça signifie conjoint dans un mariage, ou bien simplement individu de sexe masculin. Donc on peut traduire homme d'une seule femme et femme d'un seul homme dans ces passages. Et l'expression semble avoir été employée pour désigner précisément l'attitude de fidélité et de concentration sur l'unique conjoint de la part donc de personnes dans l'Antiquité en général, sur certaines tombes où il ne s'agissait pas manifestement de pluralité de mariage, c'est une formule d'honneur rendue au défunt. Il a été l'homme d'une seule femme, ça veut dire il lui a été fidèle, il n'a pas pensé à d'autres, il n'a pas papillonné, il n'a pas eu un cœur d'amadou, il était l'homme d'une seule femme, et de même femme d'un seul homme. Pour la femme. Ça me paraît le sens qui est le mieux en contexte ici. Donc, il y a des arguments tirés d'inscriptions qu'on a retrouvées, etc. Et puis ça correspond. L'épiscope, il ne doit pas avoir un faible du côté de la bouteille. Pas donner au vin. Il doit pas. Ça existe des gens parfois très spirituels, mais dont le cœur s'enflamme un peu trop vite. Il doit être l'homme d'une seule femme. Oui. Ça me paraît être dans la note, voyez. Donc c'est comme ça que, pour ma part, je crois qu'on peut comprendre ce texte, et non pas comme relatif au nombre de mariages. Et si l'apôtre Paul avait pensé que de se remarier, en particulier après veuvage, c'était quand même pas si bien que ça, on ne comprendrait pas qu'il dise pour les jeunes veuves, au chapitre 5 toujours, au verset 14, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants ». Là, c'est lui qui donne quelque chose comme directive le remariage. Alors, s'il pensait que c'est vraiment, pas vraiment très bien, et qu'il vaudrait mieux pas, il n'aurait pas donné au verset 14 du chapitre 5 une telle directive. Oui, c'est cet ensemble de données qui me fait répondre comme j'ai répondu.
Merci. Monsieur Michel Patin.
esclaves et la fonction de l'héroïne. Et dans ce qui a été dit ensuite, il me semble, je ressens ça, il me semble que la diaconie est à la fois une fonction et un statut, et est devenue un statut. Parce que Dieu nous invite à être serviteurs les uns des autres, et si nous nous habituons à le faire, nous sommes tous diacres, en quelque sorte. Or, il y a des préventions de cette diaconie en termes particuliers, donc je pense qu'il y a là une reconnaissance envers certaines personnes qui ont un rôle particulier de service à jouer dans une communauté. Est-ce que ça peut être un peu précisé et nous indiquer comment cette reconnaissance doit-elle se faire ou peut-elle se faire chez nous à l'heure?
Donc, remarque de M. Patin, les esclaves, et on leur a accolé l'accent du statut et par opposition aux serviteurs, les diaconoi, et M. Patin demande, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les serviteurs ont aussi un statut ayant à répondre de leurs activités vis-à-vis de quelqu'un?
Je crois que je peux simplement suivre ce que suggère la question même, l'intervention de M. Patin. La distinction entre l'esclave et le serviteur que j'ai signalée, surtout parce qu'elle n'apparaît pas dans toutes nos versions bibliques, elle me semble intéressante, mais en même temps, elle ne crée pas un gouffre entre les deux. Il y a un accent qui diffère, un point de vue qui n'est pas tout à fait le même, mais c'est vrai que ce n'est pas exclusif, et que lorsque le mot diakonos est employé de manière plus spécialisée et en rapport avec un office dans l'Église, à ce moment-là, il tend aussi à se revêtir de connotations, de statuts. C'est un peu plus juridique, sa relation avec la discipline dans l'Église. Donc c'est vrai, je ne voudrais pas faire une opposition là trop marquée. Et donc je vais dans le sens de ce que suggère, me semble-t-il, la question. Alors, en ce qui concerne l'application dans notre église au tabernacle, je préfère que ce soit M. Jean-Charles qui fasse les commentaires.
Je dirais tout d'abord que, en effet, et toute forme de service comporte des contraintes. Et par conséquent, et les serviteurs, les diaconoi, ne sont pas libres, ne peuvent pas exercer leur ministère avec fantaisie. Ils doivent l'accomplir et comme étant liés. Et soit par des contrats oraux ou écrits, en quelque sorte. Concernant notre Église, mon souci, ou mon souhait, est partagé par plusieurs, c'est que précisément, nous nous regardions les uns les autres comme étant diakonos des uns et des autres. C'est-à-dire que nous devons manifester du respect pour l'autre, de la reconnaissance dans ce qu'il fait. Donc chacun a un service à accomplir dans l'Église, et je dis cela avec force parce que je suis souvent attristé d'entendre tel ou tel dire « mais je n'ai pas ma place dans l'Église, je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce que je fais ?» Mais lorsque nous nous plaçons en face du Seigneur, qui est aussi le diakonos qui était venu pour servir et non pas pour être servi, je crois que nous avons une responsabilité d'abord devant le Seigneur, même si l'Église en tant que telle ne délègue pas de mission, de service à accomplir. Je crois que de soi-même, vis-à-vis du Seigneur, on doit se comporter, se reconnaître comme étant diakonos des autres et voir aussi dans les autres des diakonoi. Et je dis souvent, je remarque, par exemple, on me demande des nouvelles de tel ou tel membre d'église. Alors je me suis dit, c'est vrai que le pasteur fait des visites auprès de ses membres. Mais je me suis dit, après tout, et si quelqu'un d'entre vous s'aperçoit que tel ou tel membre est absent pendant plusieurs dimanches, il peut de lui-même aussi téléphoner ou écrire, sans forcément passer par le pasteur pour avoir des nouvelles. Voilà donc une forme de service très simple. Ne croyez pas que je dis cela pour critiquer, mais c'est un exemple pour dire que l'on peut accomplir un service pour l'édification mutuelle de façon spontanée, sans attendre de mots d'ordre et de la part de quelques ministres plus ou moins supérieurs. Maintenant, et concernant la distinction entre anciens et diacres, diacres spécialisés, comme l'avait dit M. Blocher, eh bien, nous sommes en train au Conseil de voir et s'il y a lieu, en effet, d'arriver à cette distinction. Mais alors, nous ne voulons pas que ce soit le Conseil et qui, en quelque sorte, désigne des diacres spécialisés. Il faudrait que l'Assemblée elle-même reconnaisse dans tel ou tel chrétien, dans telle ou telle chrétienne, un don, et que l'un ou l'autre est appelé à exercer. Donc il faudra une reconnaissance et non pas une imposition d'un service qui viendrait de haut. Hein. Alors voilà actuellement notre position. Monsieur Jacques Richard, oui.
Pour prolonger dans ce que je viens de dire, est-ce que le Conseil a ressenti de la part de l'Église quelque chose qui ressemblerait à un reproche? L'Église trouvant qu'il est trop occupé et débordé comme l'étaient les apôtres, et qu'elle souhaite, c'est-à-dire en quelque sorte, un allègement du travail des membres du Conseil, un partage meilleur de toutes les tâches qui sont à accomplir.
Alors là, il faudrait peut-être demander l'avis de plusieurs qui sont au Conseil, mais pour moi-même, ce n'est pas cet écho qui m'est parvenu, et ce n'est pas la question de surcharge d'activité de la part du Conseil, mais c'est plutôt une question de frustration. On a comme perçu de la part des membres qui sont ici ou là une certaine frustration de ne pas être reconnus dans ce qu'ils accomplissent, ou bien de ne pas être sollicités pour telle ou telle tâche, et la sensation d'être inutile. Il y en a d'autres qui font tout, bon, et moi je n'ai rien à faire. C'est plutôt cela et que pour ma part, et j'ai perçu dans l'attitude ou dans la parole de tel ou tel autre. Alors je ne sais pas si M. Blocher a une vision différente.
Pas différente, non. Je pense en effet que le déficit qui a été perçu et qui s'est exprimé concerne plutôt ceux qui accomplissent certaines diaconies sans que cela se sache et sans que le rapport aux anciens ou aux pasteurs qui a pour charge de conduire l'Église soit assez explicite, donne lieu à des échanges, des questions et des conseils. En un sens, on fait confiance d'une manière trop globale et trop isolante à la personne à qui on confie un service déterminé. Et il le fait, mais tout seul, et peu le savent, et puis le Conseil ne demande pas de compte ou n'intervient pas, et c'est ça ce qui a été perçu comme un déficit. Mais je me borne là à expliciter ce que M. Jean-Charles a résumé. En ce qui concerne la surcharge des membres de notre Conseil, je crois que c'est de leur côté que ça a été ressenti. Que c'est assez peu venu de la part d'autres membres de l'Église, c'est pas les autres membres de l'Église qui ont dit vous êtes surchargés, mais beaucoup de membres du Conseil l'ont perçu comme ça, il me semble.
Madame Bartel.
En visite. Et si je sais que frère a des difficultés, je suis les membres du conseil, je ne vois pas leur travail. Je sais qu'ils vont faire du travail, parce que c'est nous qui sommes surchargés. Mais est-ce que c'est le plus bien de visite, je ne vois pas, je ne dis pas qu'ils ne font pas, mais je ne vois pas. Je ne sais pas si tous les membres vont voir, si tous les commerciaux voir. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils font. Je ne vois pas tous que prêcher non plus, c'est selon leur capacité. Il faut dire les frères et sœurs qui prêchent, c'est parce que nous avons aimé leur prêche. Ils n'avaient pas fait d'études, mais en tout à mesure, ça fait 35 ans qu'ils ont acquis selon la parole de Dieu, et selon le pasteur prêche. Il faut écouter, c'est pas seulement de nous écouter, mais acquis, oui, comme si on est à l'école du projet. Pas autant, mais un peu pour pouvoir aider l'Église. Alors, quand le pasteur est malade, ils arrivent beaucoup à aider l'Église. Ils ont été les autres, les autres ont beaucoup aidé les aides, et ont beaucoup aidé l'Église aussi. Alors, j'aurais voulu en même temps. Je voudrais voir le travail des bordants, des membres du conseil. Et les petites têtes, je ne veux pas que ce soit les parties de travail, les membres du conseil, obligatoires.
Eh bien, je dirais deux choses, et pour répondre à notre sœur, c'est que premièrement, et il n'y a pas si longtemps, il y avait un tableau et sur lequel apparaissaient les responsabilités des membres du conseil. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que bon nombre des membres du conseil parmi nous accomplissent les mêmes tâches que les membres de l'Église. Il y a là des membres du conseil qui viennent, par exemple, aider à un déménagement, ou bien installer des banderoles, ou bien nettoyer la salle. Ça existe. Alors, par conséquent, je crois que les membres du conseil exercent, d'une part, une responsabilité qui peut être occulte, mais quand même qui est affichée et sur un tableau, mais d'autre part, ils accomplissent aussi des activités qui sont peut-être tellement banales, parce qu'ils font la même chose que les autres, et à ce moment-là, ça passe inaperçu. Alors, je ne sais pas si M. Blocher veut dire quelque chose.
Non, je pense simplement que je peux faire remarquer deux différences avec la situation qu'a connue notre sœur, et qui me semble être une situation heureuse. J'aimerais bien que davantage de ce qu'elle a évoqué puisse se voir aussi parmi nous, mais il y a deux différences. Une première différence est celle de notre dispersion en région parisienne, des distances, de la difficulté, étant donné les horaires professionnels, de nombreux membres du conseil de faire par exemple des visites qui, dans une église davantage localisée, avec un autre rythme de vie, sont plus faciles. Et puis deuxième différence, plusieurs des membres du conseil ont des responsabilités dans des œuvres chrétiennes aussi extérieures. Or, c'est mon cas, personnellement, c'est le cas de M. Marais, par exemple, aussi. Et ça a été une tradition dans notre Église, depuis pas mal de décennies même, que nous ayons des liens avec d'autres œuvres évangéliques qui sollicitent beaucoup de notre temps en dehors de la présence dans l'Église même. C'est un problème, je ne dis pas que ce soit idéal, mais je crois que ça a joué par rapport à ces différences que notre sœur a observées. Qui sont là.
Je crois que peut-être que dans ce sens-là, la parole « être mari d'une seule femme » pourrait aussi être interprétée et servir une seule église ou une seule œuvre, mais est-ce possible? Oui, une dernière question, parce que l'heure est Mme Assolonio. Un peu plus fort, parce que je n'entends. Oui, et tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, mais... Oui, mais il faut bien comprendre la question de notre sœur Bartel, c'était une comparaison entre les fonctions des diacres là-bas et celles des diacres ici. Donc c'était une comparaison. Hein, voilà.
Mais aussi par rapport à ce que nous avions dit auparavant sur le déficit de reconnaissance.
C'est cela.
Je ne sais pas si c'est un
Merci.
Monsieur le pasteur, je ne vous ai pas demandé, moi je ne peux vous expliquer, parce que uniquement je l'ai fait, parce que ma direction est faite, personne ne le fait, je ne peux vous expliquer.
Merci. Eh bien, je crois qu'il y aurait encore d'autres questions à poser, d'autres précisions à apporter. Et peut-être nous pourrons aborder ces aspects pratiques dans une réunion d'église en pensant à une éventuelle élection de diacre. Mais on verra ça à d'autres occasions. Merci. Merci à M. Blocher.